Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 8h. Beaucoup de Danois ont envie de venir en France cet été. Alors on espère que notre initiative servira de modèle à l'Union européenne.
Le véritable redémarrage du tourisme passera-t-il par le passeport vaccinal ? La France n'en veut pas pour l'instant, mais le Danemark et la Suède se lancent. Explication dans un instant, alors qu'au Portugal, où nous rejoindrons notre envoyé spécial, ce n'est pas une vague, mais une déferlante de contamination qui succède en ce moment à la vaguelette qui avait touché le pays au printemps. Dans ce journal, Super U, Leclerc, Intermarché, la grande distribution chouchoute les étudiants en espérant les fidéliser. Emmanuel Macron compare les manifestants pro-Donald Trump de 2021 aux gilets jaunes français de 2018. Et puis le foot français réconcilié avec son partenaire historique, Canal+, mais les recettes de la saison seront amputées de 40%.
Juste après ce journal, en plein MeToo inceste, la libération de la parole, un député témoigne, violé à l'âge de 11 ans par, je cite, un monsieur du village. Bruno Ketel, député de La République En Marche de l'Eure, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un débat très vif. Il y a ceux qui prônent le retour à la vie normale immédiat pour les personnes vaccinées. On pourrait enlever le masque, voyager, s'asseoir à la table d'un restaurant. Et puis ceux qui refusent une société à deux vitesses avec des droits différents entre les vaccinés et les autres.
En Europe, on s'est mis d'accord sur les critères pour élaborer un futur passeport vaccinal. Mais sans dire à quoi il pourrait servir concrètement. Eh bien, deux pays de l'Union veulent avancer, la Suède et le Danemark. Mathieu Bock nous explique le fonctionnement prévu par les Danois.
Connecté à son dossier médical en ligne, chaque utilisateur pourra prouver qu'il a bien été vacciné ou qu'il a déjà été contaminé et qu'il a développé des anticorps ou enfin qu'il a été testé négatif quelques heures auparavant. Il devra ensuite scanner un QR code à l'entrée d'un restaurant ou d'un stade par exemple et s'il remplit l'un de ces trois critères, il pourra y pénétrer. Les acteurs économiques du pays sont tellement impatients de reprendre une activité normale qu'ils financent eux-mêmes le développement de cette application, explique Lars Nielsen de la Chambre danoise de commerce.
C'est définitivement une bonne idée. Je pense que dans tous les pays européens, le tourisme, l'économie, la culture, le sport, les festivals sont les secteurs qui souffrent le plus. Je pense que grâce à cette application que nous développons, nous pourrons rouvrir plus tôt que prévu. Beaucoup de Danois ont envie de venir en France cet été et les Français seront les bienvenus chez nous. Alors on espère que notre initiative servira de modèle à l'Union européenne.
Les autorités pensent que l'application sera disponible dans 4 à 5 mois. Lars Nielsen, lui, est persuadé que grâce à la motivation des entreprises qui travaillent dessus, elle sera prête bien avant, aux alentours de Pâques, dans 2 mois.
Pâques, ça nous paraît bien loin, mais imaginez pour le Portugal, que l'on avait cité en exemple au printemps et qui est aujourd'hui le pays le plus touché au monde par le virus, rapporté à sa population, avec plus de 16 000 contaminations par jour.
Bonjour Roman Hockey.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Lisbonne et vous avez passé plusieurs heures dans le service de réanimation de l'hôpital Santa Maria, le plus grand de la capitale.
Oui, et en arrivant, j'ai rencontré Sergio, médecin épuisé par 5 jours non-stop à l'hôpital.
We live in a such chaos.
Un chaos derrière d'immenses portes blanches, une zone Covid avec une centaine de lits.
Full capacity.
Tous occupés par des patients plus jeunes qu'en France. Les Portugais paient le relâchement des fêtes de fin d'année où restaurants et bars sont restés ouverts.
Portugal. Had a first wave.
Pendant la première vague, le Portugal a été épargné par rapport au reste de l'Europe, ce qui a rendu les gens trop confiants. Beaucoup de mes patients m'ont dit qu'ils avaient probablement attrapé le virus à Noël. Pendant des dîners, entre amis, en famille, sans masque. Ils ne m'ont pas dit qu'ils regrettaient, mais je l'ai vu dans leurs yeux.
Katharina, médecin, l'avoue, oui, ils doivent trier les patients trop nombreux pour le peu de respirateurs. Un système de santé déjà fragile, brisé par l'épidémie.
La crise ne fait que révéler des failles qui ont été négligées pendant des années. Et ça, nos politiciens ne le réalisent que maintenant. Nous manquons de personnel et de matériel, c'est le problème.
Une lueur d'espoir. Depuis 24 heures, les contaminations diminuent, mais dans les hôpitaux, ça veut dire encore 2 semaines difficiles. En attendant, le pays se tourne vers l'Europe. 26 soignants allemands sont arrivés en renfort au Portugal. Portugal, englouti par cette troisième vague.
En ligne de Lisbonne, Roman Okel, envoyé spécial d'Europe 1.
Et je voudrais simplement qu'on s'arrête sur ce chiffre. 13 000 morts depuis le début de l'épidémie au Portugal. La moitié de ces 13 000 morts depuis le début de l'année. Tout récemment, en un mois.
Alors en France, on nous en a parlé depuis des mois. Cette fois, les tests de dépistage du Covid par la salive vont arriver. C'est promis. Olivier Véran en annonce des centaines de milliers pour le retour des vacances scolaires. S'ils sont validés par la Haute Autorité de Santé, ces tests sont bien sûr plus adaptés pour les enfants car moins invasifs.
Et on a parlé ici de la souffrance des étudiants qui commencent tout juste à pouvoir revenir un jour maximum par semaine dans les universités.
Oui, une solitude, une détresse et une précarité aussi contre laquelle la grande distribution, c'est plutôt inattendu, compte, elle aussi, apporter une réponse, Carole Ferry.
Oui, alors les premiers à s'être lancés, ce sont les mousquetaires d'Intermarché. Ils proposent jusqu'à lundi un bon d'achat de 10 euros aux étudiants, dès 20 euros d'achat. Un coup de pouce pas totalement désintéressé, puisqu'il faut pour ça prendre la carte de fidélité du magasin. En tout cas, l'idée fait des petits. Michel-Édouard Leclerc a lui aussi promis hier un panier étudiant à 2 ou 3 euros. Le prix exact reste à fixer, ainsi que son contenu. Il devrait arriver en magasin fin février. Et puis vous avez les initiatives locales. À Lyon, par exemple, la mairie du 6e a sollicité les commerçants du quartier pour une opération spéciale jeunes demain toute la journée. Super U a alors décidé de distribuer 350 paniers repas selon la responsable RH du magasin, Claire Provent.
Ils ont tous une valeur d'environ 50 euros par panier. Dedans, il va avoir des pâtes, du riz, des biscottes. On va avoir des conserves, du chocolat, du papier toilette. Et puis quelques produits d'hygiène comme le shampoing ou le gel douche. De quoi tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec ce pack.
Coût de l'opération, 10 000 euros environ pour ce supermarché de quartier.
Carole Ferry pour Europe 1. On reste dans les chiffres avec cette centaine d'économistes, dont Thomas Piketty, qui signent une tribune dans le journal Le Monde aujourd'hui. Ils veulent annuler les dettes publiques que détient la Banque Centrale Européenne. Autrement dit, selon eux, nous devons à nous-mêmes 25% de notre dette, écrivent-ils. Et donc, s'il faut rembourser cette somme, il faudra soit réemprunter, soit augmenter les impôts, soit baisser les dépenses publiques. La politique avec le débat sur la loi séparatisme qui continue à l'Assemblée nationale. L'un des articles ajoutés après l'assassinat de Samuel Paty a été adopté hier soir à l'unanimité. Il punit les intimidations envers les agents du service public.
Vous vous souvenez de ces images? Il y a tout juste un mois, à Washington, le Congrès, le Parlement des États-Unis, envahi par des manifestants. 5 morts, dont un policier.
Oui, et certains observateurs avaient fait le lien entre ces supporters de Donald Trump et les gilets jaunes, les Français, qui ont rythmé nos samedis en 2018-2019. Ce rapprochement, Emmanuel Macron, hier soir, l'a fait à son tour, interrogé par un cercle de réflexion américain, avec au passage une critique très forte des réseaux sociaux.
Ils ont légitimé le manque d'inhibition. Ils ont fait la promotion de la culture des gros mots. Du conflit. Et cela a changé la nature de ce que doit être le débat démocratique. 2018 en France, 2021 aux États-Unis. Voilà la nouvelle violence dans nos démocraties, largement liée à ces réseaux sociaux.
Un peu plus d'une heure de conférence en anglais, hein, le président de la République, avec ce petit accent très Frenchy qui plaît beaucoup aux anglo-saxons. Grand oral aussi de Joe Biden, cette nuit, en anglais, devant le département d'État, autrement dit, le ministère américain des Affaires étrangères.
America is back. Diplomacy is back.
L'Amérique est de retour, la diplomatie est de retour, déclare le président des États-Unis. Nous allons rebâtir nos alliances. Pendant ce temps-là, Donald Trump, accusé d'incitation à l'insurrection, confirme qu'il ne témoignera pas à son procès en destitution qui doit démarrer mardi. Son équipe répète que cette procédure est contraire à la Constitution.
Vous restez bien avec nous dans un tout petit instant. L'épilogue du dossier des droits télé dans le foot français.
Avec la petite musique de Canal+, et autre petite musique, celle des Foo Fighters, le dernier album, on l'aura dans les oreilles.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
C'est la moins mauvaise décision possible pour les patrons de clubs de foot français qui perdent au passage 40% des revenus prévus, 680 millions au lieu de plus d'un milliard. Canal+ sera donc seul diffuseur de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'au bout. Jean-François Pérez, on pensait pourtant que les deux parties, la Ligue et Canal, étaient très éloignées.
Oui, c'est vrai. Alors, tout ça pour ça, diront certains, mais au final, le foot français respire encore ce matin. Après des mois de relations glaciales, les deux partenaires historiques vont reprendre le fil de leur histoire. La Ligue va récupérer environ 650 millions d'euros cette saison. C'est 40% de moins, vous l'avez dit, de ce qui était prévu avant la défaillance de Mediapro. On peut dire que le président Vincent Labrune a sauvé l'essentiel, même si des plans sociaux semblent inévitables dans certains clubs. Quant à Canal+, comme on l'imaginait, il sort grand gagnant de ce bras de fer. Le groupe français avait très mal vécu son éviction du foot en 2018. Il sera désormais le diffuseur de tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, dont il devrait d'ailleurs céder une partie à son partenaire Qatari. Son savoir-faire a fait la différence. Une nouvelle chaîne spéciale foot pourrait être d'ailleurs créée. Rendez-vous dès dimanche avec OMPSG pour le début de ce mariage de raison qui prend la forme pour l'instant prudente d'un CDD de 4 mois avant de nouveau pourparlers cet été.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
On en vient donc à la musique. En 1994, l'un des meilleurs groupes de rock, Nirvana, disparaissait en même temps que Kurt Cobain, décédé à l'âge de 27 ans, le club des 27. Le batteur du groupe, Dave Grohl, il faut voir en ce moment Mathieu Béliard qui joue le batteur en studio silencieusement, a ensuite créé les Foo Fighters, devenus une référence du rock. Les Foo Fighters qui sortent leur 10e album, Medicine at Midnight, qui va peut-être un peu chambouler les fans de la première heure. Angèle Châtelier.
Ce titre, Shame Shame, est le premier extrait que les Foo Fighters ont dévoilé de leur 10e album. Mais il a dérouté les fans de la première heure. Ceux qui suivent le groupe depuis 25 ans, habitués à leur musique excitée, presque agressive. Le leader du groupe, Dave Grohl, voulait un disque de fête, plus pop. Il a même fait un clin d'œil à Let's Dance de David Bowie, en s'inspirant du même groove pour une chanson. Xavier Bonnet, journaliste rock au magazine Rolling Stone France, constate aussi qu'il est plus calme que la plupart des albums des Foo Fighters. Comme si, à 52 ans, Dave Grohl s'était assagi.
En fait, il est parfois assez nostalgique, plus adulte, on pourrait presque dire même plus cérébral. Par exemple, le riff de guitare dans le morceau Cloudspotter, il l'avait en tête depuis au moins 25 piges. Donc, du coup, bah voilà, il a réussi à le caser.
Mais leur signature, c'est de faire des chansons taillées pour le live, énergiques. Et il y en a, évidemment, dans cet album. D'autant que Dave Grohl le confiait à Rolling Stone. En composant ses 9 chansons, il imaginait son public danser dessus en festival.
Les Foo Fighters, ça pulse, c'est rythmé comme un réveil par Mathieu Béliard. Il me confiait. Il attend cet album, je cite, comme un dingue depuis des semaines.
C'est vrai, je confirme. François Geffrier dit la vérité. Merci François, on attend l'album et en attendant, c'était le journal de 8h. Mille merci François Geffrier, il est 8h14 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Comment transformer l'insoutenable en moteur pour lutter contre les crimes sexuels sur enfants? Mon invité, le député Bruno Quetel, porte les stigmates de son histoire, les blessures de son enfance qu'il a récemment racontées. Et il porte aussi, c'est très important, ce combat de la justice et de la société. A tout de suite.
Il est 8h14.
Historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Remaniement gouvernemental, Stéphane Bern est nommé Premier ministre.
Non, c'est vrai.
Prénom canular. Ah, vous n'avez rien appris de notre émission, Stéphane. Ah, non,
mais heureusement pour la France.
Son nom, alors, vous le connaissez?
Van quelque chose. Voilà.
Ah, c'est Van quelque chose. Vous ne prenez pas de risque, on est en Hollande.
Ouais. Entre nous, c'est comme Danton et Robespierre.
Oh mon Dieu.
Hier, j'étais son ami. Aujourd'hui, il m'envoie la guillotine.
Historiquement vôtre.
Racontez l'histoire sans se la raconter.
Tous les après-midi, 16h, 18h sur Europe 1.
Tout à l'heure, vers 8h44, retrouvez la revue de presse avec la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Dès le 30 janvier, découvrez des métiers qui recrutent dans 300 lieux de formation et en ligne. Plus d'infos sur semaine-service-auto.com.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, le député de La République En Marche de l'Eure, Bruno Quetel.
Bienvenue à vous et bonjour Bruno Quetel.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin, le 18 janvier dernier, à ce micro. L'invité était Jack Lang. Ce jour-là, une question lui est posée sur les accusations d'inceste à l'encontre d'Olivier Duhamel, mais plus largement aussi sur le silence dans une famille, le silence dans un milieu quel qu'il soit, le silence aussi finalement dans une société tout entière. On écoute sa réponse. Sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir tous ces témoignages poignants avec le hashtag MeTooInceste. Et je n'ai pas lu, je vous répète ma question, d'indignation de votre part, Jack Lang, sur cette affaire et ses conséquences.
Je ne peux pas m'indigner à chaque minute, simplement, puisque vous m'interrogez, je vais vous dire
mon
sentiment. C'est
la géométrie variable.
Mais vous m'interrogez, vous êtes d'une grande radio. Alors je vous réponds. Première, il ne faut pas tout confondre là encore. C'est une honte ce qui a été accompli par Olivier Duhamel. C'est une honte. Il n'y a pas de mot pour désigner l'inceste, pour désigner la pédophilie. C'est révoltant.
Vous avez réagi à ce moment. Ces mots, comme d'autres, ont pu agir comme un précipité.
Et effectivement, c'est la phrase sortie de son contexte, peut-être, ou du propos plus large de Jack Lang qui m'a incité à rédiger ce tweet. Et aujourd'hui, je suis devant vous, non pas pour raconter mon histoire, mais pour peut-être porter la parole de cette dame qui travaille à l'Assemblée nationale et qui, hier, a demandé à me voir pour me raconter sa propre histoire et celle de sa fille, avec le même auteur, de toutes ces femmes et ces hommes qui, dans leur enfance, ont été blessés, dans leur chair, et pousser avec mes collègues, quelle que soit leur origine politique, ce débat qui ne doit pas disparaître. Il ne faut pas que ce soit un moment, une séquence d'actualité. Il faut que ce soit vraiment une prise de conscience.
Parce que vous avez été et vous allez continuer à être, Bruno Ketel, une sorte de réceptacle de ces témoignages aussi d'adultes aujourd'hui installés dans leur vie et qui vous racontent l'insoutenable. On va parler de l'après en quelques mots, je vais résumer. Vous avez dit sur les réseaux sociaux, il n'était pas de ma famille, il était du village, de ces lieux où la famille est grande, j'avais 11 ans. Vous l'avez raconté, ce viol, et aujourd'hui vous avez ces témoignages. Comment vous les recevez? Quel est le point commun de ces récits aujourd'hui?
C'est la fragilité de ces femmes et de ces hommes qui soit m'écrivent, soit me parlent. C'est le côté indélébile de la tâche qui est posée sur chacun de leur corps. Et c'est aussi leur vie qu'ils ont su construire, chacune et chacun, avec leur parcours, leurs forces et faiblesses. Et c'est tout cela qu'il faut entendre, essayer de comprendre, parfois accompagner. Je ne vous cache pas que ça peut me paraître lourd à certains instants. J'ai reçu une quantité très très importante de messages de femmes et d'hommes du pays. Et j'essaie de répondre à tous. Pour justement essayer de démontrer que si mon expression à travers mon image de parlementaire peut servir, j'essaye d'être à la hauteur de cela sans pour autant m'ériger en totem ou porte-parole officiel. C'est aussi un chemin qui doit être personnel. Il y a des femmes et des hommes qui nous écoutent, qui n'ont jamais parlé, qui vont peut-être le faire après cette émission. Il y en a d'autres qui le feront dans d'autres circonstances. Et puis il y a aussi les auteurs, dont certains nous écoutent aussi, inévitablement. Il y a cette forme de non-dit sur ces questions. Et puis après, il y a la lâcheté, soit individuelle ou collective, qui s'installe. Et parfois, ça éclate, comme c'était le cas ces semaines passées. Voilà ce que je peux vous dire. J'aimerais tellement que l'on arrive, au cours des jours, des semaines, des mois à venir, de faire en sorte, comme l'a dit le président de la République, la peur doit changer de camp.
Elle change de camp par aussi une libération de la parole. Il y a en ce moment, Bruno Ketel, comment faut-il les appeler, des affaires. Et en tous les cas, parfois, souvent, c'est parole contre parole, comme les accusations portées par la fille de Richard Berry. Comment vous réagissez plus largement à l'aune de tout cela? Est-ce que vous dites « la parole se libère » ou est-ce que vous entendez aussi certains dire, et ça peut être difficile et même douloureux à entendre peut-être pour vous également, eh bien le tribunal ne doit pas se faire dans les médias. Ce n'est pas un tribunal médiatique.
Ça ne doit pas être un tribunal médiatique. Mais s'il n'y avait pas eu Jack Lang et sa phrase, je ne serais pas devant vous. Donc les médias ont leur rôle à jouer. La société médiatique a son rôle à jouer. Aussi pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous inciter. Et aussi pour... Non pas expliquer, parce que ce n'est pas explicable, je pense. Mais pour mettre en place des capteurs, il faut vraiment, pour le futur, que tout cela ne soit qu'arrangé au rayon, je dirais, du passé. Ces comportements déviants doivent être dénoncés pour ce qu'ils sont réellement en termes d'inhumanité.
Les capteurs que vous et tant d'autres n'ont pas eu durant l'enfance Je ne veux pas du tout vous faire revenir ce matin sur votre témoignage. Et Bruno Cotel, on est d'accord, nous allons parler de la suite de ce combat que vous allez porter. Mais comme pour vous, vous avez confié cela à vos parents. Mais la mécanique froide du silence s'est enclenchée. Une harmonie factice s'est mise en place. Et puis, les années ont passé, le temps a été dévoré, mais pas votre mémoire.
Effectivement, chacun s'installe dans une forme de confort. Parce que ne pas en parler, c'est ne pas se replacer dans le contexte, c'est ne pas... admettre que l'on n'a pas été là où il fallait, au moment où il fallait, pour son enfant, son proche ou la personne de notre connaissance. Nous étions, me concernant, il y a plus de 40 ans. La société, y compris médiatique, n'était pas la même. Les prises de conscience n'étaient pas les mêmes. C'est pour cela aussi que je suis là ce matin. C'est pour que nous soyons toutes et tous, quelles que soient nos fonctions, quelle que soit notre place, parce qu'il y a tellement d'anonymes qui ne peuvent pas s'exprimer, en situation de dire, le cas échéant, moi aussi, voilà ce qu'il m'est arrivé, pour que justement, encore une fois, tout ça soit dans le domaine du passé.
Vous êtes l'homme, l'enfant qui a grandi, mais vous êtes aussi aujourd'hui le parlementaire, et donc le législateur, qui a malgré tout utilisé les réseaux sociaux, en tous les cas pour raconter, pour se libérer, mais vous êtes aussi au cœur de la démocratie, au Parlement. Vous allez le porter, ce combat, vous allez l'accompagner. On a entendu ces derniers temps un débat, même une polémique autour de la question de l'âge du consentement. Comment vous avez vécu ces moments-là qui se passent dans notre Parlement ?
J'ai justement essayé de me poser et de réfléchir à la meilleure solution possible, si tant est qu'il y en ait une, sur la question notamment de la prescription. Et... comme je l'ai déjà indiqué, on peut pas reprocher à quelqu'un, on peut pas dire à une femme ou à un homme qu'il fallait te réveiller plus tôt parce que le délai de prescription est passé. Je crois que ça serait pas audible pour les personnes concernées, mais pour la société dans son ensemble. Donc, je crois qu'il faut qu'on prenne le temps, qu'on ne soit pas dans l'émotion. Et je ne veux pas, et je sais qu'il y a un travail qui est fait aujourd'hui pour cela, je ne veux pas que ce soit une question partisane. Il faut que toutes et tous, on soit capable de travailler ensemble, de poser les meilleurs mots dans la loi à venir, parce qu'il y aura des débats à venir. Il y a eu un texte adopté au Sénat, et un texte d'origine du Parti Socialiste qui vient le 18 février dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il n'est pas question d'appréhender celui-ci à l'aune de l'étiquette politique qui le porte. Donc il faut qu'on soit capable, encore une fois, d'écrire la meilleure loi possible.
Vous en appelez à une responsabilité, d'ailleurs, qui transcende évidemment toutes les étiquettes, à une dignité, à un devoir vis-à-vis évidemment des enfants.
Vous avez raison, c'est tout à fait une question de dignité collective que l'on doit avoir. Et je dois vous dire que si nous n'en étions pas capables, je le vivrais assez mal en tant que parlementaire. La sphère politique est tellement décriée que là, nous n'avons pas le droit de pas être à la hauteur. Et je ne serais pas, encore une fois, un porte-étendard, un porte-drapeau. Je serais présent dans l'hémicycle, ce que je n'avais pas fait, sauf pour un court instant dans le cadre de l'examen de la loi dite Chiappa. Parce que maintenant, je ne peux pas reculer.
Vous ne pouvez pas reculer parce que vous avez tous ces témoignages, parce qu'il y a les autres, et puis il y a vous aussi. Est-ce que,
d'ailleurs, puis il y a la vie.
Et puis il y a la vie, elle continue.
Il y a la vie, elle continue, elle se construit. Et celles et ceux qui sont aujourd'hui concernés doivent s'inscrire dans cette logique de construire leur propre parcours pour eux-mêmes, avant toute chose, pour leurs proches.
Comment elle se construit, Bruno Cotel ? Votre agresseur est décédé sans jamais avoir été inquiété, sans jamais que vous puissiez même un jour, je crois, pouvoir affronter son regard. Est-ce qu'aujourd'hui parler, est-ce que ça peut avoir des vertus réparatrices quand la justice ne permet pas de l'obtenir ?
À titre personnel, mon entourage est informé de tout cela, mon épouse, mes enfants, et je n'avais pas besoin de m'exprimer pour être bien dans mes baskets. Je me suis trouvé un peu, non pas entraîné, parce que je suis complètement maître de mes mots, y compris lorsque je les pianote, mais la vie, elle se construit jour après jour, dans le sens où vous ne pouvez pas oublier, vous n'oubliez jamais. Et il est des moments, des mots, des faits, des micro-secondes où vous vous retrouvez placé dans ce moment précis où vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un morceau de viande. Vous n'êtes qu'un morceau de viande pour la personne qui fait ça. Et ça, il faut le transcender. Sinon, vous n'avez plus rien à faire sur Terre. Il faut le transcender. Il faut le transcender aussi pour l'humanité. Je parle par là de nos parents, aussi paradoxal que cela puisse paraître, parce qu'ils nous ont donné la vie, de nos enfants, parce qu'ils nous regardent tout le matin avec leur regard innocent, et puis aussi de celle ou de celui avec lequel vous vivez, parce que vous l'aimez, parce qu'il vous aime.
Je crois que tout est dit.
Sans doute.
Beaucoup de choses sont à venir, donc.
Il faut continuer à porter cela collectivement, ça ne sera jamais une entreprise individuelle.
Merci Bruno Quetel, merci d'avoir été notre invité ce matin, et bonne journée à vous.
Bonne journée.
Merci Sonia. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ça avec les auditeurs d'Europe 1, monsieur Quetel. Voilà, c'est important. Je sais, pendant l'interview, j'ai reçu beaucoup de messages, Sonia, de mon entourage, d'amis proches qui me disent sur Europe 1, c'est important ce qui se passe ce matin. Il fallait le souligner. 8h27, très bon réveil à tous.
Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre un nouveau journal et puis la météo, Laurent Cabrol, bien sûr. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau journal avec Jérôme Lacroix.
Des vacances de février bien particulières démarrent ce soir pour les habitants de la zone A dans une France sous couvre-feu. Jean Castex en appelle à la prudence de chacun comme pendant les congés de Noël. Et au retour de ces vacances, dépistage massif dans les écoles et les universités via des prélèvements salivaires, a détaillé hier le ministre de la Santé Olivier Véran, procédé moins invasif que les écouvillons des tests PCR.
Nous allons multiplier les opérations collectives de dépistage, notamment en direction des établissements scolaires, en lien avec Jean-Michel Blanquer, mais également des universités, en lien avec Frédéric Vidal. De manière à renforcer l'acceptabilité du test, qui peut ne pas être agréable quand on est petit, nous attendons l'avis de la Haute Autorité de Santé sous 10 jours, qui nous permettra d'employer des techniques de prélèvement nouvelles par prélèvement salivaire, dans des conditions que la Haute Autorité de Santé devra préciser. Sans attendre, nous nous équiperons et nous déploierons ces techniques pour qu'au retour des vacances scolaires, nous puissions réaliser plusieurs centaines de milliers de tests par prélèvement salivaire.
Le gouvernement qui entend accélérer la campagne de vaccination, ouverture d'1 700 000 nouveaux créneaux de rendez-vous dans les prochains jours. L'exécutif vise au moins une première injection de sérum pour 4 millions de personnes d'ici la fin du mois. Accélération facilitée dès demain avec le déploiement des premières doses du vaccin d'AstraZeneca. C'est une autre arme contre le Covid expérimentée en ce moment à Heidwiller, un village du Haut-Rhin. Un capteur de CO2 installé dans une classe de l'école primaire du village. Il mesure la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, histoire d'être réactif sur l'ouverture des fenêtres. Geste barrière bien connu. Reportage du correspondant d'Europe 1, Arthur Mbaché.
Aujourd'hui, c'est Lissandra qui a le capteur sur son bureau à côté de ses 3 trousses roses à paillettes, une petite machine avec des chiffres sur un écran.
C'est pour détecter le CO2. Il faut que je surveille. Là, on est à 891 et que si ça va plus que 1000, il faut qu'on ouvre une fenêtre.
Et tu vois le rapport avec le coronavirus ou pas? On va demander à la maîtresse ça.
Oui.
Cet appareil nous a permis de nous rendre compte que le seuil était très très vite atteint.
Oriane Stylet, la maîtresse.
Et que les mesures que nous demandait notre protocole sanitaire, à savoir d'aérer toutes les 2 heures, ne suffisaient pas. On s'est rendu compte qu'il fallait garder constamment une fenêtre ouverte de façon à ce qu'il y ait quand même un niveau correct de CO2.
Quand on respire, on émet du CO2 et des aérosols. Donc plus il y a de CO2, nous dit l'adjointe à l'éducation Véronique Gebel, plus il risque d'y avoir du virus dans l'air.
Et là, on est dans une salle avec pas 20 élèves, qui est relativement spacieuse. On imagine dans un lycée, 30 élèves, la teneur en CO2 qui doit exploser.
Après cette expérimentation, la communauté de communes compte équiper les 160 classes des écoles des villages des alentours. Heidwiller, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et de ces capteurs de CO2, on en reparle dans un instant avec le docteur Jimmy Mohamed. Jean Castex l'a confirmé hier, pas de reconfinement, en tout cas pas pour l'instant, des périodes en suspens qui, on le sait, sont bénéfiques pour l'environnement. On mesure à quel point, grâce notamment à une note publiée hier par l'INSEE, Olivier Samin, les émissions de gaz à effet de serre ont à chaque fois fortement baissé.
Oui, au mois d'avril, l'empreinte carbone générée par notre consommation a plongé de 36%, mais elle s'est ensuite redressée pour revenir presque à la normale en juillet, août, septembre et octobre, avant de rechuter en novembre, mais pas autant qu'en avril, moins 20% seulement, puis de se redresser à nouveau en décembre. Démonstration par les chiffres de l'impact favorable pour la planète des 2 confinements de l'année dernière. À la source de ces émissions de gaz à effet de serre, il y a l'énergie qui a été nécessaire pour fabriquer les articles que nous avons achetés, de même que l'énergie utilisée pour les acheminer tout près de chez nous. Mais il y a aussi nos dépenses de chauffage et, bien sûr, l'essence que nous avons mise dans nos voitures et le kérosène utilisé dans les avions qui nous ont transportés. Et ce que montre l'INSEE, c'est l'importance des transports dans les variations enregistrées l'an dernier. Les moins 36% d'empreintes carbone au mois d'avril sont principalement dues aux interdictions de déplacement du premier confinement et à l'effondrement, dès le printemps dernier, du trafic aérien.
C'est l'histoire belge du jour qui ne fait pas rire grand monde. Du côté de l'Île-Dieu, en Vendée, le roi des Belges en est un amoureux. Il y vient en vacances depuis plus de 20 ans, dans une villa, zone naturelle, 7000 m². Il souhaite construire une annexe indépendante qui n'entre pas vraiment dans les règles du plan local d'urbanisme. De quoi agacer certains habitants, rencontrés pour Europe 1 par Charles Guyard.
Il a cherché la discrétion en venant à la pointe, mais c'est raté.
Et oui, sur une île, tout se sait. Et comme Joël, ils sont nombreux à avoir vite démasqué Monsieur Legrand. Il faut dire que derrière ce pseudonyme figurant sur le permis de construire se cache en fait le roi des Belges, qui pensait donc que le chantier de sa petite annexe de 40 mètres carrés à côté de sa villa passerait aussi incognito que lui. Mais voilà, les travaux de Sa Majesté sont hors la loi, selon Patrice Bernard, opposant municipal.
L'annexe pose problème parce qu'on peut construire que 30 mètres carrés attenant à l'habitation et en zone naturel, tout type d'installation à usage privé, c'est pas possible.
Pas possible, sauf si la demande de permis, et c'est là le problème, est accordée en haut lieu, comme l'a reconnu le maire Bruno Nourry, passablement gêné lors du dernier conseil municipal, c'était fin janvier.
C'est un truc qui s'est imposé à nous, clairement c'est une demande de préfet, voilà.
Un véritable passe-droit, en somme, que beaucoup ici ne digèrent pas comme Jérôme, un voisin.
Moi j'habite 200 mètres à côté et on m'a refusé 3 fois mon permis de construire pour mon garage, 30 mètres carrés, il serait dans les règles.
Et dans un communiqué, le maire a finalement clos toute polémique, dégainant l'imparable motif défense et sécurité, car dans cette annexe logera l'indispensable garde rapprochée du roi des Belges. L'Île-Dieu, Charles Guyard, Europe 1.
Et le grand gagnant se nomme Canal+. Après un accord hier avec la Ligue, la chaîne cryptée récupère les droits de diffusion du foot jusqu'à la fin de la saison et pour 2 fois moins cher par rapport à ce qu'avait promis Mediapro, le diffuseur défaillant. 650 millions d'euros contre plus d'1,5 milliard. Et puis le soulagement des organisateurs de l'Open d'Australie de tennis. Tous les joueurs ont été testés négatifs au coronavirus. Le tournoi devrait donc démarrer lundi comme prévu.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. Il est 8h36 sur Europe 1 et nous retrouvons Laurent Cabrol pour un nouveau point météo.
Et la vigilance météorologique s'allège un tout petit peu dans le nord avec seuls 3 départements. Maintenant, la Somme, l'Aisne et l'Oise sont en vigilance orange. Dans le centre-est, c'est la Saône-et-Loire. Et puis dans le sud-ouest, nous avons le Lot-et-Garonne, les Landes, la Dordogne, la Gironde, les Deux-Charentes, les Deux-Sèvres. Et maintenant, le Maine-et-Loire qui est nouvellement élu, si je puis dire, au rang des vigilances orange. Alors aujourd'hui, c'est une journée d'intempéries. Oh, j'allais dire raisonnable, avec certes de la pluie, mais enfin sans excès, sur le Poitou-Charentes, la Gironde, le Limousin, le Loiret, le Centre, le Morvan, la Lorraine et l'Alsace. Alors que les éclaircies seront là sur la vallée de la Garonne, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, la Provence et la Côte d'Azur. Et puis des éclaircies aussi, mais très timides sur Paris. Alors Paris, la pluie n'est pas très loin, elle est juste au sud de Paris, comme sur la Champagne-Ardenne et sur les Pays de la Loire, mais elle ne devrait pas venir dans la capitale, ou alors vraiment, c'est à quelques kilomètres près, dans le sud du bassin Paris. Voilà, les éclaircies gagnent très vite la Bretagne et l'ensemble des côtes de la Manche. Les températures entre 11 et 15 degrés. Et je vous disais tout à l'heure que les prévisions que j'avais effectuées sont un petit peu erronées, puisque je pensais le froid sec arriver. Eh bien non, le froid sera là à partir de demain, mais un froid raisonnable. Et les intempéries vont se poursuivre malheureusement la semaine prochaine, ce qui ne va pas arranger les choses sur le front des inondations.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h37, dans un tout petit instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, notre planète, votre rendez-vous avec Fanny Agostini, avant bien sûr la revue de presse, la dernière de la semaine avant 9h. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h38 sur Europe 1. Permettez-moi de saluer le docteur Jimmy Mohamed qui nous a rejoint. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu.
Oui, j'ai mis les formes un petit peu. Parce que vous avez mis la veste.
Ça fait du bien.
Vous avez mis la veste, alors moi je mets les formes. Bonjour Julie qui est déjà en studio avec nous.
Bonjour.
Je voudrais vous interroger, chers amis. Nous sommes avec Paul Lassen aussi autour de la table.
Bonjour.
Sur ce que nous allons entendre à présent. Écoutez bien, tendez l'oreille. C'est la nouvelle star de la musique internationale. Une jeune artiste. Très, très, très jeune artiste. En fait, au moment où c'est enregistré, elle n'est pas encore née. Ses parents sont musiciens et ils ont décidé de placer tout un tas de capteurs d'électrodes, je place les détails, sur la maman enceinte et d'enregistrer les sons in utero et de sortir un disque. Ça s'appelle Sounds of the Unborn, ce morceau. Bon, on est dans l'expérimental, hein. V4.3.2. Voilà, c'est le nom du morceau. Ça va être dur sur Spotify. Écoutez de la musique de, j'allais dire de nouveau-né, de pas encore né.
On dirait le Grand Bleu, la musique du Grand Bleu.
C'est beau ce que vous dites.
C'est très angoissant surtout. Mais...
C'est un peu l'ambiance. Je voulais faire un moment du docteur Jimmy Mohamed, puisque je ne sais pas comment ça se passe dans ce cas-là, mais a priori, vous n'êtes pas mélomane non plus.
Non, il faut du Xanax là pour passer après ça. Là, ça va être compliqué, mais bon.
39 sur Europe 1. Notre santé, docteur Jimmy Mohamed, tous les matins. Vous l'avez entendu dans le reportage d'Arthur M. Bachet un peu plus tôt. Les détecteurs de CO2, le dioxyde de carbone, pourraient être une nouvelle arme dans la lutte contre le Covid.
Oui, alors ce détecteur de dioxyde de carbone sert justement à détecter le dioxyde de carbone présent dans une pièce. Alors, pour bien comprendre, quand vous respirez, vous allez prendre de l'oxygène et vous allez expirer du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, il va s'accumuler dans la pièce où vous êtes, et plus ce CO2, ce dioxyde de carbone est élevé, plus vous avez un risque d'attraper le coronavirus, car ça veut dire que la pièce est mal ventilée et que vous émettez de nombreux aérosols. Le problème, c'est qu'il est impossible pour nous de savoir quand est-ce qu'il y a beaucoup de dioxyde de carbone et quand est-ce qu'il faut ouvrir une fenêtre. Eh bien, vous avez justement un petit appareil qui est un détecteur. Ça coûte un petit peu d'argent quand même, c'est 200 euros. Et ça vous permet de classer les choses en trois catégories. Vert, ça veut dire qu'on est bon, la pièce est bien aérée. Jaune, ça veut dire qu'il faut commencer à aérer. Et rouge, c'est que c'est la catastrophe. Et à mesure que le dioxyde de carbone est élevé, eh bien, ça veut dire qu'il faut ouvrir votre fenêtre.
Et concrètement, dans quelle situation est-ce que cela pourrait servir ?
Alors, tout d'abord, regardez dans ce studio. Nous sommes quatre. Nous ne sommes pas dans le plus grand studio, pour les auditeurs qui nous écoutent, d'Europe 1. Nous sommes dans le studio Lagardère. Et pour autant, nous sommes à 800 ppm de CO2, ça veut donc dire qu'on est bien ventilé. C'est-à-dire que malgré tout, malgré les 4 personnes qu'on est dans un petit studio, eh bien, il y a peu de risques d'attraper le coronavirus par aérosol. C'est lié à la ventilation. On peut imaginer la même chose que dans le reportage, dans une classe, on met ce petit dispositif, et quand on passe au jaune, on ouvre la fenêtre. Parce qu'on nous dit qu'il faut ouvrir la fenêtre toutes les heures, toutes les deux heures, mais que vous soyez seul ou avec 30 ou 40 enfants dans une pièce plus ou moins grande, ça change la donne. Évidemment. Mais est-ce qu'on pourrait pas aller un peu plus loin ? On pourrait imaginer, comme c'est le cas notamment au Japon, dans des restaurants, puisqu'à un moment, il faudra bien réouvrir les restaurants, mettre ce dispositif pour montrer que dans un restaurant, on est bien ventilé et qu'on ne risque pas d'attraper le coronavirus par l'aérosol, parce qu'on a mis le paquet sur les surfaces en se lavant les mains, mais très peu sur la diffusion de l'air. Et puis, pourquoi on ne mettrait pas ça non plus dans des salles de sport ? Pour se dire, tiens, on va rouvrir les salles de sport, puisque apparemment il faut vivre avec le virus, on ne confine pas, mettre un masque et montrer que la pièce est ventilée. Et à l'inverse, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des expérimentations dans des lieux qui soi-disant ne propagent pas le virus, comme les transports en commun. On nous dit que les transports en commun sont fiables.
Mais pour en avoir le carnet.
Mais comme on ne sait pas, eh bien, mettons un dispositif. Imaginons qu'on explose les compteurs, que le dioxyde de carbone est très élevé. Ça veut dire qu'il y a peut-être un risque ou qu'on doit changer nos modes de vie et porter des masques FFP2. Ça veut dire qu'une nouvelle stratégie doit être mise en place. Ces détecteurs de dioxyde de carbone, ça coûte pas très cher au vu de tout ce qu'on dépense et surtout, c'est d'une aide précieuse dans la lutte contre le virus.
Et surtout, c'est plus d'infos. On a besoin de plus d'infos et de mieux comprendre. Merci beaucoup, Jimmy Mohamed. C'était très clair et on vous retrouve dans Sans Rendez-vous à 15h tout à l'heure avec Mélanie Gomez, l'émission Santé d'Europe 1. On a beaucoup parlé de psychothérapie hier matin avec Eric Toledano, Olivier Nakache, la série En Thérapie. Vous allez nous aider à choisir un psy.
Non, on va passer dans la tête du psy, c'est génial, un rendez-vous à ne pas manquer.
Et puis Jimmy, j'y tiens, on en reparlera beaucoup à partir de lundi bien sûr, mais j'y tiens, Europe 1 solidaire à destination de la jeunesse, les jeunes travailleurs, les jeunes étudiants qui vivent une période franchement difficile, on l'a beaucoup dit. Eh bien, on s'engage toute la semaine prochaine à leur venir en aide et votre rendez-vous santé, évidemment, le matin, sera entièrement consacré à ce soutien que nous apportons à la jeunesse. Merci Jimmy et bon week-end, du coup, 8h43. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, vous nous dites que végétaliser les villes serait devenu un signe de puissance.
Oui, cela devient même un signe de richesse, carrément, pour les villes. Un nouvel indicateur de développement. Les projets de végétalisation deviennent la priorité des politiques publiques des plus grandes villes du monde, comme New York, Montréal, Copenhague ou encore Singapour, qui a annoncé en octobre dernier son projet de planter 1 million d'arbres. En France, selon l'Observatoire des villes vertes, Angers, Nantes et Metz sont sur le podium des villes les plus végétalisées du pays, et cela grâce à des politiques locales volontaristes. Vient ensuite Amiens et Lyon, avec une surface moyenne de verdure de 51 mètres carrés par habitant, soit 3 mètres carrés de plus qu'en 2017.
Vivre dans une ville plus verte permettrait de vivre plus vieux.
Rien que sur le plan sanitaire, c'est vrai que ça a des avantages physiologiques et psychologiques, cette nature en ville. Une étude de grande envergure financée par l'OMS l'a démontré. Les scientifiques ont utilisé les images satellites pour suivre pendant plusieurs années l'évolution de la couverture végétale de grandes villes dans le monde et pour ainsi mettre ces données en parallèle avec la courbe de l'espérance de vie. 8 millions de personnes ont été suivies entre la Chine, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Canada, les États-Unis, l'Australie, ce qui représente la plus vaste étude jamais réalisé sur le lien entre la nature et la santé. Le lien ténu entre végétalisation et espérance de vie a pu être prouvé avec un système de notes allant de moins 1 à 1 à chaque pixel du territoire passé au crible par les satellites.
Et d'un point de vue climatique, végétaliser les villes serait la meilleure arme, vous dites ? On a perdu Fanny Agostini. J'espère que la réponse était oui, parce que c'était assez affirmatif comme question ce qu'elle me suggérait, Fanny Agostini. D'un point de vue climatique, alors, végétaliser les villes, c'est la meilleure arme, Fanny ?
Tout à fait, pour garantir une meilleure oxygénation, réguler la pollution, atténuer le changement climatique, réduire la perméabilité des sols et même produire de la nourriture. Dans une note sur l'agriculture urbaine réalisée pour la Fabrique écologique, il est précisé que si toutes les toitures étaient utilisées à des fins permacoles de production de nourriture, c'est-à-dire à peu près 1,3 million de mètres carrés, ainsi que tous les jardins collectifs, soit 29 millions d'hectares, eh bien on pourrait subvenir aux besoins nutritionnels de près d'un million de personnes.
Eh oui, donc la réponse était bien oui. Merci Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins sur Europe 1. À suivre la revue de presse que Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h47.
La revue de presse avec la semaine des services de l'automobile et de la mobilité à retrouver sur semaine-service-auto.com.
Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité.
Et oui, ma chère Julie, bienvenue. Bienvenue sur Europe 1, si vous venez de nous retrouver. L'actualité ce matin, c'est bien sûr la conférence de Jean Castex hier, qui nous a en fait juste répété les mesures de la semaine dernière. Franchement, bravo. Non mais vous imaginez, si on fait tous pareil, si Laurent Cabrol, par exemple, se contentait de répéter la même météo que la semaine dernière. C'est pas sérieux.
J'ai pas une petite nappe musicale. Voilà. C'est la même que la semaine dernière. C'est la même que depuis 10 ans, voire 20 ans. Alors, honnêtement, moi je préfère être transparent avec les auditeurs, hein, puisque ce matin... On dit tout. Alors honnêtement, ça m'arrive, hein, parce qu'en fait, oui, ça m'arrive de dire la météo...
La même que la semaine dernière,
oui,
hein,
oui,
d'accord.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai deux options, tu le sais, on a parlé à la machine à café de nombreuses fois. Soit il pleut, soit il pleut pas. Hein. Je vais tout vous dire, chers auditeurs, mon record, c'est d'avoir, je l'ai marqué sur mon petit carnet, c'est d'avoir répété la même météo 71 jours de suite. Et tenez-vous bien, personne ne s'en a rendu compte. Franchement,
génial.
Merci Laurent, quel exercice de franchise. Allez, l'autre info, c'est François Asselineau, candidat souverainiste à la dernière présidentielle, vous en souvenez, qui est en garde à vue pour agression sexuelle et harcèlement moral. D'ailleurs, franchement, on en parlait à la rédaction, il devrait être inculpé pour harcèlement tout court. On ne peut pas prendre aujourd'hui une autoroute sans voir ces vieilles affiches fanées pour le Frexit sur tous les pieds des ponts. Il y a sa tronche tous les 3 mètres sur la 86. C'est vrai. Elles ont pas été décollées, sont toutes fanées, les couleurs.
Génial.
On l'a tous vécu, franchement, honnêtement, il fallait pas se présenter à la présidence de la France, mais à la présidence de Jean-Claude Decaux. Hein. Allez, puis l'autre info, c'était mon petit coup de gueule. Et puis l'autre info, c'est le Sénat qui a finalement rejeté la procréation médicalement assistée, la PMA pour toutes. Une décision qui...
Et voilà ! Salut ! Une décision qui est enfin arrivée, mais ça, c'est vachement bien ! Salut, c'est la Nadine.
On l'a reconnue, oui.
On l'a reconnue, ouais, c'est votre copine, la Morano. Mais ils ont eu raison. Moi, je dis bravo, j'applaudis les sénateurs. On ne fait pas un enfant avec des pipettes et des éprouvettes, excusez-moi. On le fait normalement, comme tout le monde, sur un siège arrière de Twingo. Hein, avec un homme, un mec, qu'on a repéré en sortant des toilettes du Macumba Flash de Montargis. Mais oui, mais on l'a tous fait. Allez. C'est pas à peine de faire l'air dégoûté. Hein, on s'ambiance un peu sur les lacs du Connemara. Hein, on siffle une demi-douzaine de Ricard. On va dans la bagnole, siège arrière de la Twingo. Et au moment où il y a la montée de cornemuse, eh ben on y va. Papa, il met la graine dans maman, voilà. Ah voilà, c'est là, c'est bien, voilà.
Tu connais Mara.
Julie danse.
Ah ouais. Tu vas voir, Mathieu, à chaque fois que t'entendras la montée de cornemuse, ben, tu penseras à la Nadine, à la Twingo, au siège arrière, sur le parking de la zone commerciale du Auchan, voilà.
Alléluia. oui, voilà.
Alléluia, copulons au son divin. Des terres brûlées au vent, des landes de pierre.
Ah non,
alléluia, ya ya ya.
Oui, oui, merci à tous, oui, ça ira. C'est un triomphe.
C'est un amour tout à l'heure.
J'aime les trompes.
Merci, merci à tous.
Toutes les trompes.
C'est ça, allez, on va revenir à Jean Castex qui a donc donné une nouvelle conférence de presse hier. La priorité, je parle comme lui, priorité, et bien sûr d'éviter.
Moi j'en ai brûler les priorités à ma Twingo, je peux te dire.
La priorité est bien sûr d'éviter le reconfinement qui serait une catastrophe économique. On va en parler avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à Nadine.
Hey, salut.
Bonjour à tous vos aimables sous-fifs. Écoutez, hier, Jean Castex a redonné sa petite conférence hebdomadaire pour interdire des trucs. Hein. Faudrait lui trouver un nom à cette émission.
C'est bien résumé. Hein.
À l'image d'Arthur, je propose le jeudi, rien n'est permis.
Alors, les vacances de février approchent. Les Français ne savent pas quoi faire, en fait.
Hein. Ils savent pas quoi. Ben mais il y a plein de choses à faire en vacances. Quand vous êtes tout seul, vous jouez aux cartes. Vous êtes tout seul, vous jouez au Monopoly.
Tout seul, oui.
Vous regardez le plafond tout seul.
Oui.
Est-ce que vous avez déjà regardé votre plafond attentivement, Mme Julie? Non. Hein, ben voilà. Et ben voilà, une nouvelle aventure. Hein. Pensez à m'envoyer des photos de votre plafond, Julie.
Ah ben, ça va pas être bien distrayant ces vacances. Hein.
Il n'y a pas que la Twingo dans la vie.
Ça l'a marqué. Hein. Ah, il fantasme, Monsieur Béliard.
Mais tu m'étonnes qu'il fantasme.
Il y a une Twingo dans son garage. Hein.
Il va réparer la Twingo. Mais je te fous, dit le Serge arrière.
Bon, Monsieur le maire, s'il vous plaît, un petit mot
oui,
de conclusion.
Oui, est-ce qu'on peut revenir sérieux? Ouais. Hein, si vous embêtez en vacances, ouais. Hein, moi j'ai un si vous faites chier, on va parler trivialement, excusez-moi, entre nous. Moi j'ai un super truc pour vous. Quoi? Continuez à bosser, chers auditeurs. Faire du télétravail, voilà. On a une économie en ruine, je le rappelle. Alors si vous voulez vous occuper intelligemment, ne vous gênez pas, bossez.
Eh ben voilà, merci beaucoup, Monsieur le maire. Allez, on va parler un peu d'autre chose. L'État a été condamné pour carence fautive dans la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que pour préjudice écologique. Le tribunal a condamné l'État à verser 1 euro symbolique aux associations écologistes plaignantes.
Oui, bonjour. Eh bien, dis donc, 1 euro symbolique. J'ai juste une question préalable. Moi, j'ai une langue ou non?
Ça voilà, marche, je crois. Tout.
Oui, dis donc.
C'est la boîte de nuit qui change dans ce cas-là.
On est dans le haut de gomme. Oui, dis donc, ravager une planète, ça ne coûte qu'un euro symbolique. Hein. On n'est pas sorti des ronces, hein, franchement. Non, mais il faut le dire. Montez au moins à un SMIC, que la peine ressemble à quelque chose.
Bon, il faut dire que la situation écologique est grave. Hein. Le journal Le Monde parle de prévisions alarmantes de Météo France. Hausse des températures montant jusqu'à 50 degrés, climat français qui pourrait devenir extrême, les glaciers qui reculeraient, la faune serait perturbée aussi.
C'est formidable, toutes ces mauvaises nouvelles.
Bah non, c'est surtout pas rassurant. Quoi.
Mais non, mais c'est formidable pour moi, pour revenir dans le game. Hein. Si tout le monde panique d'ici 2022 et veut de l'écologie, bah... Hein, maman, elle revient taper à la porte de l'Élysée ou au moins de Matignon.
Tiens,
imaginez arriver à Matignon ou à l'Élysée, hein,
oui, bah,
avec un chauffeur au volant de Malo Gounod.
Tiens, on a parlé justement d'écologie cette semaine à cause d'une pétition des habitants de l'Orne qui vivent à côté d'éoliennes. Et c'est bruyant, ça les empêche de dormir. Ça leur donne aussi des maux de tête, ces éoliennes.
Oui, les éoliennes, mais écoutez, oui, mais il n'y a pas de rose sans épines, allons. Hein. Vous savez, c'est surtout pour les oiseaux que ça me préoccupe, les éoliennes. Vous savez, les éoliennes font souvent du carpaccio de volatiles. Ah, si, j'en parlais à Fonny. J'en parlais à Fonny Agostini.
Fonny.
Mais oui. Mais les oiseaux, je vais vous dire la caractéristique de l'oiseau, c'est que l'oiseau est un peu con. Hein. Il vole en escadrille. Hein, et quand il tente de passer entre les pales de l'éolienne, bon, ben, s'il y a trop de vent, ça fait souvent comme un hélicoptère. Et du coup, quick hein, ça les saucissonne comme des sashimi. Hein. D'ailleurs, je conseille à Cyril Lignac ou à Laurent Moriotte d'ouvrir un resto japonais en bas de l'éolienne. Hein, tomber tout cuit dans l'assiette.
Oh, hein,
oui. Ça veut plutôt tomber tout cuit dans l'assiette.
Oh, là
oui,
là,
vu que c'est des oiseaux.
Ouais, mais oui, oui, on a compris, oui, oui.
Oh, c'est bon de rire. Oh, c'est autre chose que l'humour de Conteloup. Hein.
Merci Ségolène Royal. Oui, c'était un plaisir. On a appris que Gérard Larcher avait été testé 46 fois depuis le début de la pandémie. Bonjour Monsieur Larcher.
Non, tu ne pas le cochon. Ah, c'est mon nez, mon pauvre nez, ma Julie.
Ah bah oui, avec les tiges, là, les cotons-tiges.
Ah oui, c'est plus un nez, c'est le tunnel de Fréjus. Et croyez-moi, s'il faut en passer par là pour ne pas attraper le Covid, je suis prêt à le faire.
C'est vrai que si vous êtes malade, bah, c'est embêtant. Hein. Vous êtes celui qui remplacerait Emmanuel Macron en cas d'incapacité du président à gouverner. Hein.
Non, mais ça, on s'en fout. On s'en fout. C'est surtout que si je chope le Covid, je perds le goût.
Ah.
La potée auvergnate aura le même goût que les paupiètes ou que le carpaccio d'oiseau façon éolienne. Imaginez. Les saucisses de Toulouse ont le même goût que les frites, c'est-à-dire aucun. Moi, perdre le goût, plutôt crever. Du coup, je m'enfile moi-même des poignées de coton-tige dans les narines. Ah, mon pauvre nez. Faut souffrir pour pouvoir bouffer tranquille aujourd'hui.
Oh, souffre avec vous, allez.
Merci Nicolas Canteloup, merci Julie. La revue de presse qu'a retrouvée sur Europe1.fr et bravo aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. 8h57.
C'était la revue de presse avec la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Dès le 30 janvier, découvrez des métiers qui recrutent dans 300 lieux de formation et en ligne. Rendez-vous sur semaine-service-auto.com.
8h57, Culture Média, la matinée continue avec Philippe Vandel qui nous a rejoint au studio. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Mathieu, je vous apprends rien. Les droits du foot français ont enfin trouvé preneur. Canal qui a annoncé hier soir, après des semaines d'attente, qu'elle récupérait l'intégralité des droits de diffusion jusqu'à la fin de la saison, au rabais.
Au rabais, oui.
Moins cher pour Canal, moins cher pour la Ligue et tant mieux pour ceux qui sont déjà abonnés. On en parle avec Sacha Nokovic, l'un des meilleurs connaisseurs du dossier, journaliste au journal L'Équipe. Vous aimez le foot, Mathieu ?
Beaucoup.
Vous avez des enfants ?
Aussi.
Ah ben ça va vous plaire. Le burn-out parental, autrement dit, les parents à bout de nerfs, voire en détresse. On n'en parle jamais à la télévision, phénomène en hausse. Premier documentaire à ma connaissance sur le sujet, c'est sur M6 dimanche soir.
Très belle idée.
Avec des séquences absolument exceptionnelles. On sera avec
sa réalisatrice. C'est presque tabou en fait, de dire qu'on...
C'est tabou. Les parents n'osent pas dire qu'ils ne sont pas des parents parfaits, des mères parfaites, et surtout avec les images de rêve qu'on voit sur les réseaux sociaux. Au sommaire également, Marc Lavoine, juré dans la saison 10 de The Voice qui commence samedi prochain. On sera également avec le producteur du programme. T'as vu cette imitation un peu
Quand
écoute ça, Mathieu Grelier. Et puis le comédien Christian Heck de la Comédie Française, le comédien préféré du président Macron, mais également de Danny Boone. Il est dans la nouvelle série costumée de Canal+, très ambitieuse. Ça s'appelle Paris Police 1900. Il sera avec nous.
Merci Philippe Vandel, enfin merci, je vous laisse ma place, je vais partir.
C'est Pierre
Delino qui va vous réveiller tout ce week-end, samedi, dimanche. Moi je reviens lundi matin. En direct, bien sûr.
Vous serez débarrassé des gosses.
Dès 7h, exactement.
D'ici vous serez là, content de revenir.
D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.
Europe 1, 9h.